marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il faut faire parler les silences de l'histoire.
Le retour des reliques.
De permanent, je suis appelé. Tout de suite en arrivant, deux choses me semblent essentielles à accomplir. La première, sauver ce trésor inestimable qu'est la couronne d'épines. Et ensuite, bien sûr, Jésus présent dans le Saint-Sacrement. En rentrant dans la cathédrale, nous avions une sorte de vision de ce que pourrait être l'enfer, à savoir des cascades de feu qui tombaient précisément des ouvertures. La difficulté pour nous était de trouver celui qui était détenteur du code afin d'ouvrir le coffre-fort dans lequel la sainte relique est préservée. Et pendant cette sorte de quête au code, une équipe de pompiers était déjà à l'œuvre, à savoir attaquer le reliquaire, le pulvérisant malheureusement. Le temps que nous trouvions des clés, nous sommes arrivés, la sainte relique, de manière à peu près simultanée, a été sortie sous la protection des forces de l'ordre, à savoir des fonctionnaires de la préfecture de police.
Le père Fournier, l'aumônier catholique des pompiers de Paris. Et son récit a fait écrire ceci à Delis Tillinac la semaine passée. L'important, écrit-il, est que les flammes ont épargné les reliques. Chrétiens, agnostiques, athées, voire musulmans ou juifs, nos compatriotes ont eu le souci, souvent prioritaire, de leur sauvegarde. Parce qu'elles cautionnent une sacralité irrécusable autant que nécessaire, parce que ce legs de l'Église reste notre seul viatique dans les cryptes de l'inconscient collectif. Alors, il n'est pas sûr que l'inconscient collectif soit en histoire une catégorie très utile, mais l'envolée de Tillinac a le mérite de rappeler des faits fondateurs. C'est autour de restes des martyrs que les premières églises de l'Antiquité chrétienne ont été construites. Le peuple allait ad sanctos vers les saints. Le corps du Christ s'était lui dérobé aux hommes le jour de l'Ascension, mais les objets qui avaient eu affaire avec lui furent à leur tour découverts, inventé à partir du IVe siècle. L'impératrice Hélène, mère de Constantin, prit ainsi la mer à plus de 80 ans et entreprit une grande campagne qui lui permit de retrouver la croix, emmêlée à celle des larrons, la lance du centurion qui avait percé le flanc du Christ, et jusqu'au cadeau que les rois mages lui avaient offert à sa naissance. Constantinople devint ainsi une extraordinaire réserve de reliques. Et c'est là que Louis IX acheta la couronne d'épines qui coiffait Jésus pendant sa passion. Il faut rappeler que la construction de la Sainte-Chapelle coûta moins que ses acquisitions qui représentaient la moitié des ressources royales d'une année. Le XIIIe siècle constitue sans doute un apogée pour les reliques qui furent bientôt l'objet de l'ironie de chroniqueurs, puis des critiques radicales de la réforme protestante. Le Concile de Trente réaffirma néanmoins leur importance et elles connurent au XIXe un nouvel âge d'or. On aurait tort de croire que leur rôle décroît aujourd'hui. Pour un christianisme devenu très minoritaire, elles sont un moyen de rester populaire. En France, l'Église qui avait tendance à les dissimuler les ressort donc en grande pompe et elles sont parfaitement adaptées à la mondialisation. Les tournées, ça les connaît, les cadeaux des trois rois mages, chers à l'impératrice Hélène et qui repose habituellement au Mont Athos, ont ainsi été exposés en 2014 à la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou. En 5 jours d'hiver, 400 000 personnes ont défilé devant elle, faisant une queue de 10 ou 12 heures par moins 10 degrés.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Michel Pierre, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Historien tout-terrain, grand historien des bagnes et des forçats, grand historien du corps aussi, parce que l'histoire des reliques qui va nous requérir aujourd'hui, c'est celle du corps.
Oui, parce que il n'est pas de religion chrétienne, il n'est pas de christianisme sans l'incarnation. Et donc, à partir du moment où vous avez une religion qui est quand même basée sur le corps, sur les images du corps, mais aussi sur la réalité du corps, très tôt, dès le premier, deuxième siècle, dès les premiers martyrs de l'Église chrétienne, on s'est attaché à ce qui pouvait subsister, ce qui pouvait rester du corps martyr, qui était à la fois un chemin direct vers Dieu, mais qui était aussi quelque chose avec un pouvoir miraculeux.
Un pouvoir et c'est pas possible. D'intercession, quoi.
C'est à la fois l'intercession et à la fois quelque chose qui peut vous arriver directement en termes de miracle. Et ça peut pas exister si vous ne partez pas de croyances qui ont un rapport très fort avec le corps.
Aux éditions du Trésor, les Bien-Nommés, un livre sous votre signature, Trésor sacré, avec des promenades ou des pèlerinages derrière certains types de reliques. Et on va commencer par les reliques des saints. Les premières reliques significatives, Saint Polycarpe.
Oui, c'est Saint Polycarpe de Smyrne, enfin Izmir aujourd'hui, qui est, alors là il y a plusieurs versions, comme souvent dans les écrits apologétiques, qui aurait été brûlé vif. Alors là, ça pose un petit problème, ouais. Parce que pour récupérer des ossements, c'est plus difficile. Mmh. Mais on a quand même, comme toujours dans ces cas-là, où on s'attache à une forme de rationalité, et se trouve que comme les flammes n'arrivaient pas à brûler Saint Polycarpe, il a été tué d'un coup de poignard, d'un coup de lance, ce qui fait que la population chrétienne a pu récupérer en quelque sorte les vestiges de sa vie humaine.
Alors il y a les saints de grande circulation comme lui, de haute réputation, et puis des saints à caractère plus local. Vous consacrez dans Trésor sacré un chapitre à la pierre des saints de Bretagne. Alors, Philippe Abjan a créé il y a quelques années un pèlerinage qui a du succès, qui fait le tour des cathédrales de Bretagne, le Trobrèze, et il a élu une lande à Carnoët en Bretagne intérieure, enfin au sens intériorité, du mot, pour y dresser une forêt de statues. Chacun, s'il a un peu d'argent à y mettre, peut y choisir un saint à sa façon. Ce sont des saints qui portent souvent des noms étranges pour nous autres. Jean Kergrist les décrit ainsi au micro de Victor Massé de l'Épinay, France Culture.
Là, on est au pied de la statue de Saint Pérec, qui est né au Pays de Galles au VIe siècle, qui était le fils du roi Gliwis de Glamorgan. À sa mort, Pérec refuse de succéder à son père, puisqu'il était le fils du roi, et il se consacre à sa foi. Il part étudier en Irlande et le collecteur Paul Sébillot, le collecteur des légendes du 19e, qui ont beaucoup mis en honneur toutes ces légendes des saints bretons, là. Et il en fait un des sept frères qui a quitté l'Irlande pour devenir évêque en Bretagne. Les autres, c'est Guy Briand, Hélène, Germain, Véran, Abram et Tresson. Alors ces dessins, on ne trouve pas du tout dans le martyrologe chrétien, mais bon. Ils ont une existence dans l'imaginaire irlandais et breton, celte. Mais d'ici, on aperçoit une autre statue de femme à la tête coupée, c'est Sainte Tryphine. On la voit juste en face là-bas, qui porte sa tête. Elle n'a plus la tête sur les épaules, mais dans ses mains, sur son ventre, et juste en dessous de ses seins. Alors, Sainte Tryphine, on va la chercher, elle est au... C'est une sainte assez représentative de la Bretagne centrale, parce qu'il y a un petit bled à côté de l'abbaye de Bon Repos, dans la forêt de Kénécan, où Sainte Tryphine a été décapitée.
Oui, je sais, c'est chez vous, Michel Pierre, mais retenons-nous un instant, on parlera de la sainte Céphalophore qui tient sa tête entre les mains et des autres saintes dans un instant, mais ces saints de pierre, là, choisis par la Vox Populi, c'est bien qu'ils soient en pierre, d'ailleurs, parce que ils sont souvent venus d'Irlande dans une barge de pierre.
Oui, ils sont arrivés en barque de granit depuis l'Irlande, le Pays de Galles, la Cornouaille. D'abord, on en a vraiment des preuves parce que certains sont arrivés un peu trop rapidement et on voit, je crois, à côté de la barque de Saint-Conogan, à l'est de Douarnenez, on voit la trace de la barque qui a ricoché tellement elle arrivait vite, poussée par le vent divin. Et on a des histoires tout autour, aussi dans le Morbihan, dans la Côte d'Armor, etc., sur ces saints qui sont arrivés. Et il y a eu un essai qui a été fait. Vous pouvez tout à fait construire une barque en granit. Ça a été fait il y a quelques années et ça flotte parfaitement.
Et alors, vous pouvez construire un menhir en forme de saint et provoquer le succès, parce qu'il y a 300 ou 400 000 visiteurs maintenant à Carnoët, à la Vallée des Saints. Les gens touchent la pierre ?
Ah, on peut toucher, on peut surtout comprendre, parce que...
C'est important.
Ah, c'est très important.
C'est plus important que comprendre. Chaque chose en son temps. Toucher d'abord, comprendre après.
Ou l'inverse. l'inverse. On peut lire et puis avoir ensuite envie de toucher. Non, la Vallée des Saints, c'est une histoire extraordinaire. Alors, le but, c'est de faire 1000 statues, oui, qui correspondent à peu près à ce légendaire des saints bretons. On trouve même des textes qui mentionnent au total 7300 saints bretons. J'en ai trouvé quelques-uns aussi qui sont uniquement dans le village sur quelques centaines de mètres carrés.
C'est pour ça que la Vallée des Saints prévoit une deuxième implantation. Mais on n'a pas parlé de la sainte aux deux saints.
Aux trois.
Sainte-Tréfime, dont il était question, a deux saints.
Oui,
votre préféré en a trois.
Oui, parce que Sainte-Tréfime, elle a deux saints, mais elle n'a plus de tête, donc effectivement, elle est céphalophore. Et puis Sainte-Gwen, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand même de sanctifier, que la Vox Populi ait sanctifié des personnages aussi extraordinaires, parce qu'elle-même, étant été reine et ayant eu trois enfants, deux jumeaux et un troisième, Saint-Guénolé, connu. Et pour finalement, et c'est logique, c'est normal, elle avait trois saints. Alors directement en breton, on dit la sainte aux trois mamelles, dans la traduction littérale. Donc elle appartient, mais il y en a dans cette vallée des saints, dans les quelques centaines qui se trouvent maintenant, vous avez des personnages aussi tout à fait extraordinaires.
Et dont les reliques, quand il y a des reliques en parallèle, peuvent avoir un rôle spécialisé. Mais maintenant, on va approcher peu à peu du cercle du Christ. Et parler de Marie-Madeleine, qui après la Vierge est la deuxième femme préférée pour le Christ. C'est une femme qui a été jetée sur un bateau. Elle pourrait être la patronne des réfugiés de Méditerranée, un bateau sans pilote. Et elle s'est retrouvée en Provence. Je dis ça parce que l'évêque de Toulon, qui a maintenant en charge le lieu où s'est retrouvée Marie-Madeleine, ne développe pas sur les réfugiés exactement la même polémique, la même politique, pardon, que le pape. Mais passons. Alors, Marie-Madeleine, en Provence.
Oui, elle arrive avec d'autres réfugiés, exactement comme vous dites, qui sont expulsés par la présence romaine. Elle arrive et puis elle va finir par s'installer dans une grotte de la Sainte-Baume, ce grand massif proche de Marseille. Elle va d'abord, en quelque sorte, enlever de ces lieux qui étaient déjà connus depuis l'Antiquité néolithique et déjà fréquentés. Elle va débarrasser des nids de serpents, par exemple. Il y a une grotte aux serpents, ou témoignage du diable, donc qu'elle débarrasse. Et puis elle va rester pendant 20 ou 30 ans en ermite, en quelque sorte, et nourrie, évidemment, par le Seigneur.
Mais alors, ses reliques, son corps?
Alors, son corps, quand elle a senti les forces l'abandonner, elle a rejoint l'un de ses compagnons d'équipée, qui était Saint-Maximin, qui, lui, était installé dans la plaine. Et aujourd'hui, dans cette basilique de Saint-Maximin, vous avez, justement, le crâne, alors on va pas passer différents épisodes, le crâne de Marie-Madeleine, et puis le petit bout de peau que le Christ avait touché pour lui dire...
Enfin, vous expliquez qu'il y a quand même des problèmes qui sont suscités par ce corps, parce qu'elle fait 1m50, et dans les représentations si nombreuses, dans la peinture ou la sculpture de Marie-Madeleine, elle a une taille plus proche que celle du Christ. Mais enfin, on va pas pinailler...
Oui, qui dépassait, lui, le 1m80.
On va pas pinailler, ainsi que l'explique Ramon, la veuve de Sandra.
Un révérend américain a dit « Je voudrais monter à la Sainte-Baume ». Il est monté avec un évêque et on lui a dit « Vous voyez, là, à la Sainte-Baume, Sainte Marie-Madeleine est restée 7 ans sur son rocher dans cette petite cabane. Il est sans rien, comme ça. » En redescendant, il était inquiet. Il a dit à l'évêque « Mais vous êtes sûr qu'elle est venue là ?» Et l'évêque a répondu « Mais si elle n'est pas venue... elle y viendra. »
Ah, l'évêque de Toulon de cette époque, en tout cas, parlait d'or. Elle y viendra.
Oui, et puis c'est émouvant parce que c'est l'un des grands récits ou romans inachevés de Blaise Cendrars, qui rêvait d'écrire sur Marie-Madeleine. Il en avait déjà le titre, La Carissima, la très chère.
Et c'est l'énergie des fidèles qui fait que le saint est là.
Oui, il y a une forme de poésie populaire, ça j'y insiste beaucoup dans le livre, je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. Comment on rentre dans cet imaginaire, comment on réfléchit autour, et effectivement, le pèlerin, il arrive empreint de sa foi, qui transmet aussi aux vestiges qui sont là, et c'est une très très longue histoire qui se poursuit encore aujourd'hui.
Et la raison résonante, il peut La raison raisonnante, il peut.
Absolument. Non, il ne faut pas s'occuper de... Parce que les fidèles et les pèlerins et ceux qui allaient toucher les reliques raisonnaient, au contraire de ce qu'on peut penser.
Oui, parce qu'il y a de la rationalité dans l'histoire de Sainte-Marie-Madeleine, ben telle oui. qu'elle est racontée.
Par exemple,
il y a un peu de rationalité dans ce qui paraît irrationnel.
Oui, parce qu'on se pose quand même la question. On vénère à Vérone, par exemple, les vestiges de l'âne qui a conduit le Christ à Jérusalem. Donc évidemment, à l'époque, on s'est demandé, mais comment à Vérone, l'âne qui a conduit le Christ à Jérusalem peut avoir laissé ses ossements? Mais la réponse est très simple, c'est que la Méditerranée s'est figée pendant quelques temps, ce qui a permis à l'âne de gagner la Vénétie par l'Adriatique et d'arriver jusqu'à Vérone. Donc la réponse est là.
Oui, enfin, vous expliquez dans Trésor Sacré, mais je laisse nos auditeurs lire ce livre aux éditions du Trésor, comment l'âne, on le retrouve aussi à Merschuire, en Alsace, c'est pas naturellement proche de la Méditerranée. Mais maintenant, allons au cœur. Allons au Christ. Le jour de l'Ascension, c'est le jeudi 30 mai cette année, le corps du Christ échappe. Il est aspiré par le haut.
Oui, on a des...
Pas de fémur.
Oui,
pas de
pied. Non. Mais ça c'est absolument théologiquement impossible. Comme on n'a pas d'ossement de la Vierge, ni du reste de Saint Jean, on a trois, cette trinité en quelque sorte, la Vierge et le Vierge, et bien sûr le Christ, qui ne peuvent laisser de traces terrestres avec leurs ossements. Ils peuvent laisser des fluides. On a des reliques, par exemple, du lait de la Vierge, des larmes de la Vierge et des larmes du Christ, et bien sûr du sang du Christ.
Mais le Saint-Sacrement qu'a sauvé à Notre-Dame de Paris le Père Fournier, au centre duquel il y a l'hostie consacrée, c'est le corps du Christ, mais par l'opération d'un mystère, le mystère de l'Eucharistie, pas par l'opération d'un miracle.
Oui, mais là, dans le cadre du Saint-Sacrement, vous êtes dans un autre concept, c'est l'adoration. Vous adorez ce qui vient directement, en quelque sorte, du plus important de la religion. Dans le cadre des reliques, vous êtes dans la vénération. C'est pas tout à fait la même chose. Et l'Église, en quelque sorte, s'est toujours sortie de ce problème en jouant de ces deux concepts. L'adoration n'est pas la vénération. La vénération des reliques, on pouvait l'accepter, y compris la vénération des saints bretons qui ont posé quelques questions, évidemment, au Vatican et aux évêques venus en particulier du centre de la France et débarquant en Bretagne. Ils ne comprenaient pas grand-chose. Mais à partir du moment où on considère que les fidèles vénèrent, mais qui n'adorent pas, vous pouvez ouvrir en grand les portes du paradis.
Ce distinguo est en fait, de manière théologique et précise, Michel Pierre, je vous propose une pause. Je me demande pourquoi on va entendre une chorale d'Argenteuil. Ce sont des enfants d'un peu toutes les couleurs. On voit un clip, ils sont youtubeurs aussi, sur la dalle d'Argenteuil, celle où Nicolas Sarkozy recommandait d'utiliser le Karcher et dans cet endroit. Ils chantent Couleur Love. Quel rapport avec notre sujet?
C'est la plus belle des enfants. Le début du paradis, peindre ce qu'on a. Couleur la 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 la.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Contrairement aux apparences, le thème c'est le retour des reliques et nous sommes à Argenteuil en compagnie de Michel Pierre, auteur de Trésor Sacré, édition du Trésor. À Argenteuil, non loin de la dalle, il y a un trésor que vénère, j'ai pas dit adorer, hein, Benjamin De Vita Dubrana, qui est un prêtre de la basilique d'Argenteuil, qui anime en même temps la chorale Cap-Cœur, qui emmène ses gamins à la mosquée aussi bien qu'à la basilique. Et on vénère à Argenteuil la sainte tunique qu'apportait le Christ. Parce que le corps du Christ a disparu, mais vous le disiez, il y a les éléments fluides et puis les objets. qui l'ont touché.
Oui, il y a un certain nombre de vêtements. Il y a même les langes du Christ quand il était enfant vénéré à Dubrovnik. Alors pour ce qui est de la tunique, c'est celle évidemment de la Passion. Fait partie évidemment des vêtements que se partage selon aussi les évangiles que se partagent les soldats romains. Cette tunique est récupérée, dit la légende aussi, directement par Ponce Pilate. C'est même Ponce Pilate qui la reprend à ses légionnaires. Elle est ensuite, puisque vous en parliez, récupérée par Hélène,
l'impératrice, la mère de Constantin.
Et puis ensuite, il y a un don de l'empereur de Byzance à Charlemagne. Et c'est ce qui explique la présence de cette tunique à Argenteuil dans ce qui était à l'époque un monastère de la couronne royale.
Oui, d'accord.
Ou impériale.
Si vous voulez bien, on va revenir à l'histoire contemporaine. Ça a été une ville de couleur rouge. C'est maintenant, d'après la chorale Cap-Cœur, une ville de couleur love. Et la Sainte Tunique, on la montrait très peu. Et maintenant, on vient de la montrer, il y a peu de semaines, elle a un succès insoupçonné.
Ah oui, mais à chaque ostension, puisque c'est le mot qu'on utilise, de ces reliques, a fortiori quand il s'agit évidemment du linceul de Turin, vous avez des foules considérables qui se déplacent à Argenteuil.
Vous avez de nouveau, vous aviez moins il y a quelques décennies.
Disons qu'après ou autour de Vatican II, c'est un peu moins présent. Mais là, on sent bien, depuis déjà un moment, parce qu'on le voit... Vous parliez de voyage des reliques. Je prends juste un exemple qui nous éloigne un tout petit peu d'Argenteuil, mais celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donc de Lisieux. Eh bien, elles ont été en quelque sorte, je dirais aujourd'hui, réparties en trois. Il y a ceux qui restent sur place, il y a une chasse avec des reliques de Sainte Thérèse qui circule en France, et il y a une autre qui est faite pour circuler en avion, et qui en est à son 60e pays visité, l'Australie étant la prochaine destination en 1920.
On dit que quand la chasse est passée pédestrement avenue Frédéric Le Play, non loin du Champ de Mars où résidait le président Mitterrand la dernière année de sa vie... Il a demandé à ce qu'elle s'arrête devant son palier.
Oui, oui, on est sur une très très longue durée, bien au-delà des croyances figées, je dirais.
La Sainte Coiffe, qui coiffait le corps du Christ mort, elle est ressortie dans une ville anticléricale. Dieu sait si c'est une ville anticléricale, Cahors, avec beaucoup de succès, il y a peu de temps. Mais revenons, si vous le voulez bien, au sang du Christ. Alors, il y a de la terre mouillée au pied du calvaire, Marie-Madeleine la récupère. Il y a des fioles.
Oui, alors là, on retrouve la rationalité dont vous parliez. Il y a trois possibilités de récupérer le sang du Christ. Il y a ce qui va couler de la plaie faite par Longin, le légionnaire qui perce le flanc du Christ,
lance.
Et là, vous avez deux personnes qui peuvent récupérer Longin lui-même. C'est ce qui va donner naissance à du sang qui est en l'occurrence en Allemagne et puis aussi en Italie. Il y a ce que prend Marie-Madeleine et puis ceux qui lavent le corps et qui déposent le corps du Christ vont aussi récupérer sur le lieu de la Passion.
Les sillons du sang, du précieux sang, peuvent être un peu étonnants. Nous sommes en Normandie, ici, dans un reportage de 1981 de France 3.
Fécamp, lieu de pèlerinage, et cela grâce à une légende. Au 1er siècle, un tronc de figuier échoue sur la côte. À son bord, quelques gouttes du sang du Christ. La légende du précieux sang est née. Et comme toute légende qui se respecte, celle-ci se doit de fournir quelques miracles. Sitôt dit, sitôt fait, à l'endroit même où le figuier échoue, une source jaillit. Quelques centaines d'années plus tard, elle reste toujours visible et appartient aujourd'hui à un particulier. Mais la légende ne s'arrête pas là. L'histoire dit qu'un certain Boson tenta de ramener le tronc de figuier chez lui. Ce dernier s'immobilisa en route à l'endroit précis où une église apparut. Enfin, disons qu'il fallut la construire. Aujourd'hui, c'est ici qu'est pieusement conservé le précieux sang, dans un tabernacle à côté duquel les graffitis témoignent de guérison et de vœux.
Ah bon, le tronc, il a résisté à son itinérance, parce que la relique peut résister à qui la détourne ou à qui la vole.
Bah, elle réagit. Elle peut réagir. Elle peut effectivement non seulement maudire, mais faire passer de vie à trépas qui la vole. Ou elle peut aussi, c'est le cas puisqu'on parle du sang du Saint-Sang de Bruges, qui était un sang extrêmement fluide et liquide. Et un jour, en l'occurrence dans l'année de grâce 1310, un vilain chrétien, un méchant chrétien, quasiment un païen, a quasiment insulté la fiole et son contenant. De fait, le sang s'est coagulé. Et aujourd'hui, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut vénérer à Bruges, est effectivement plutôt un liquide un peu brunâtre, mais à peine liquide, plutôt une masse en quelque sorte qu'on devine un peu molle, mais qui n'est plus liquide. Donc la relique a une forme de vie propre en quelque sorte, surtout s'il s'agit de reliques fluides.
Oui, mais dans le chapitre que vous consacrez au précieux sang, dans Trésor sacré, Michel Pierre, vous auriez dû nous expliquer pourquoi le précieux sang n'a pas résisté à Billon, Puy-de-Dôme, en 1792, quand des méchants révolutionnaires, je reprends vos adjectifs, ont voulu l'authentifier.
Oui, c'est une histoire, ce sont des archives que j'ai trouvées, que je trouve fascinantes, parce que c'est un compte rendu de ces bons républicains révolutionnaires de cette ville qui était en plus sur le chemin de Saint-Jacques et dont le sang qui s'y trouvait, la fiole de sang du Christ, était une partie des revenus apportés par les pèlerins. Et effectivement, en 92-93, eh bien, c'est le pharmacien, le médecin, enfin les gens issus du temps des Lumières décident d'ouvrir la fiole et de faire quelques expériences en comparant leur propre sang avec ce qui est dans la fiole, en y mettant le feu et en se rendant compte que cette fiole était en fait une sorte de résine végétale. Et de fait, alors je ne sais pas quel a été le destin de ces hommes des Lumières, mais en tout cas ils ont mis fin de ce fait à la fin du XVIIIe siècle à un petit flux qui existait encore de pèlerins qui venaient voir ceux qui avaient été laissés par les croisades.
Le destin de ces hommes des Lumières, moi je le dis tout crûment, l'enfer, le diable probablement, c'est votre dernier chapitre.
Oui, parce que quand on s'intéresse aux reliques, évidemment, à un moment, il faut s'intéresser au diable. Alors le diable, c'est un peu aussi comme le Christ ou la Vierge, il n'y a pas d'ossements, il n'y a pas vraiment de vêtements, mais il y a d'autres traces. On trouve des traces de combats, par exemple à Saint-Cadeau, on va revenir à la Bretagne, dans la Ria près d'Étel, vous avez un combat entre les traces d'un combat dans le sol, sur le sol, qui est strié de rainures et on sent la violence entre le diable et Saint-Cadeau. Et puis, surtout, quand vous êtes à Milan, par exemple, en face de la grande cathédrale, basilique, pardon, de Saint-Ambroise, vous avez une colonne romaine, alors qui passe un peu inaperçue, quasiment au bord d'un parking. Et quand vous regardez cette colonne, vous apercevez deux trous assez profonds. En fait, ce sont les traces des cornes du diable qui avaient tenté d'embrocher Saint-Ambroise, qui, peut-être est-il patron des matadors, enfin, en tout cas, il le mériterait, l'avait évité, sauf que le diable était tellement violent que ses cornes sont rentrées dans, il pouvait plus les enlever, et finalement il est parti dans un vent de soufre qu'on respire quand on met son nez à côté des deux trous du diable.
À moins que le diable ce ne soit celui qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes.
La jolie soirée.
Si vous voyez ce qu'il y a dessous.
Montrez, mon père.
Un trésor inestimable. Un trésor que toutes les plus grosses fortunes du département, avec leurs or et leurs argents, ils pourraient pas se l'acheter. Un morceau de tibia du patron de l'Ardèche. Notre grand Saint-François Régis.
Oh !
Oh ! Mais c'est de l'or !
Mais bien sûr, c'est de l'or, des rubis, des opales, des émeraudes, quelques diamants. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, à côté de l'humble petit ossement qui est là-dedans.
Si on rassemblait tous les tibias de Saint-François-Régis qu'on vous montre dans les églises, ce ne serait plus un saint, ce serait un mille-pattes.
Oh.
Monsieur, il vaut mieux mille pattes pour aller au ciel que deux pour aller en enfer.
Oh, pas si vite! On l'a à peine vu. Moi, j'ai toujours eu une dévotion particulière pour Saint-François-Régis.
Merci pour cette bonne parole, mon fils.
Surtout présenté comme ça.
Je vous permets de le baiser. Et à tous les chrétiens qui sont ici.
Carette et Fernandel dans l'Auberge Rouge, le film de Claude Autant-Lara, que Fernandel regrettera d'avoir tourné tant il était pieux. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Jérémy Guillon à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.